Décryptage, Marie Cazadebé.
2 ans après les attentats de Paris et Saint-Denis et la mort de 130 personnes, la France se prépare à sortir de l'état d'urgence. L'Assemblée nationale planche depuis lundi sur une nouvelle loi antiterroriste. Un texte présenté lundi par Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur.
Aujourd'hui, le gouvernement vous propose donc un texte équilibré. Un texte qui, adaptant notre droit commun, apporte une réponse durable à une menace devenue durable. Non seulement ce projet de loi ne réduit pas nos libertés, mais il vise à les préserver.
Depuis, les débats font rage. Le projet de loi fait bondir aussi bien à droite qu'à gauche. Une atteinte aux libertés pour certains, un recul sur la sécurité pour d'autres. Comment comprendre les arguments qui fusent dans l'hémicycle et en dehors avec les prises de position de nombreuses ONG, mais aussi des Nations Unies? Qu'y a-t-il concrètement dans ce projet de loi? Répond-il vraiment à la menace terroriste? Notre invité va nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Et bonsoir Driss Saïd Youssef.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes le président de l'Institut Léonard de Vinci, docteur en droit public et spécialiste des questions de sécurité globale. Vous allez nous aider à y voir plus clair sur cette loi en discussion à l'Assemblée nationale et à comprendre les arguments de ceux qui la dénoncent. Cette loi, elle doit prendre le relais au 1er novembre de l'état d'urgence, un état d'urgence prorogé à 6 reprises, 5 fois sous François Hollande, 1/6e fois à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quoi elle consistait, ce qu'elle a permis de faire au-delà du droit commun français?
Alors, au-delà du droit commun, donc ce sont des mesures qui ont été installées juste après les attentats du mois de novembre 2015 et qui donnent au préfet, donc le représentant de l'État dans le département, la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des mesures de prévention, donc de police administrative. Donc c'est la possibilité pour le préfet d'aller faire des vérifications pour voir si effectivement tel ou tel individu n'est pas prêt de commettre un attentat. Donc il s'agit de mesures d'exception destinées à faire de la vérification, seulement de la vérification et pas de répression.
L'idée, c'était à ce moment-là de se passer du judiciaire, d'un juge, pour pouvoir intervenir ou vérifier, comme vous disiez, des informations.
Absolument, puisque le juge judiciaire est réputé être long dans ses procédures et que le gouvernement ne souhaitait pas, souhaitait gagner du temps et procéder à des vérifications administratives sans pour autant qu'il y ait derrière de procédures, j'ai envie de dire, judiciaires. Et donc, ces mesures, elles étaient destinées, c'est pour ça qu'on parle de police administrative de prévention et non pas de police judiciaire, c'est effectivement d'aller beaucoup plus vite que le juge judiciaire qui, lui, est dans des procédures beaucoup plus longues.
Une réponse d'urgence, alors, aux attentats qui ont frappé la France. Et aujourd'hui, à propos du projet de loi en discussion, voilà ce qu'une partie de la gauche et de nombreuses associations dénoncent.
Le gouvernement la présente comme la sortie de l'état d'urgence, mais on sort par la porte pour mieux rentrer par la fenêtre.
C'est un peu comme le nucléaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a expliqué à tout le monde qu'on ne pouvait pas vivre sans, pourquoi est-ce qu'on l'arrêterait? C'est quand même un véritable problème éthique et politique.
On vient d'entendre une députée de la France Insoumise et une députée Les Verts. C'est un argument qui revient souvent. Cette nouvelle loi est un état d'urgence permanent déguisé. Driss Saïd Youssef, le projet de loi reprend-il des points de l'état d'urgence?
Alors oui, le projet de loi reprend au moins 2 dispositions. C'est celui des visites et saisies, anciennement des perquisitions administratives, et ce qu'on appelle la surveillance individuelle, qui est ce qu'on appelait avant l'assignation à résidence. Donc ces 2 mesures sont des mesures d'exception, donc de police administrative, qui aujourd'hui sont transposées dans le dispositif de droit commun, c'est-à-dire le code de sécurité intérieure.
On va revenir un peu plus en détail tout à l'heure sur ces mesures, mais est-ce que vous comprenez les arguments de ces 2 députés et de nombreuses associations qui disent que finalement c'est un état d'urgence inscrit dans le marbre?
Alors, plus que ça, c'est-à-dire qu'en fait, les arguments qui sont posés, ce sont des arguments qui font aussi suite à des dérives de la part de l'administration, puisque c'est toujours l'administration qui met en œuvre ces mesures, et donc des mesures qui ont été sanctionnées soit par le Conseil d'État, qui est la plus haute autorité juridiction administrative française, ou par le Conseil constitutionnel. Donc, il y a évidemment un motif sérieux à dire que, quelquefois, ces dispositions sont utilisées de manière abusive, et quand elles sont utilisées de manière abusive, c'est évidemment une atteinte insupportable aux libertés individuelles.
Alors, est-ce que ça veut dire aussi que la loi d'avant les attentats de novembre 2015 n'était pas suffisante, ou on aurait pu se contenter de revenir à la loi avant les attentats?
La loi avant les attentats de novembre 2015, c'était le code de procédure pénale et le code pénal. Donc, c'était la possibilité pour le juge judiciaire d'engager des poursuites sur la base d'informations qui sont communiquées par les services de renseignement, les services de police. Mais à côté de ça, aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'état d'urgence a été mis en œuvre parce qu'il y a une du juge judiciaire. Pourquoi il y a une lenteur aujourd'hui de l'autorité judiciaire? Tout simplement parce qu'on a un problème de moyens. Mmh. Et on considère qu'avec des mesures d'exception, je n'y suis pas pour ma part, je ne suis pas opposé à toutes ces mesures, mais ça ne règle pas le problème de l'autorité judiciaire qui souffre d'un manque de moyens et qui agonise.
On est passé par-dessus le juge parce que finalement, pas assez présent, pas assez de moyens humains.
Bah oui, c'est de l'aveu même du directeur général de la DGSI, le préfet Nunes, qui est un excellent fonctionnaire, et qui dit ça nous permet de gagner du temps et d'aller vite pour procéder à des vérifications. Donc à partir de ce moment-là, oui, on se passe évidemment du concours du juge judiciaire pour procéder à des vérifications. À côté de ça, c'est bien parce qu'on a un manque de moyens de l'autorité judiciaire.
Alors est-ce que l'état d'urgence a permis d'empêcher ou est-ce qu'elle a vraiment été efficace pendant les 2 ans où elle a été appliquée?
Je pense que oui, lorsque des mesures de vérification ont été opérées contre des individus contre lesquels il existe des risques sérieux de penser qu'ils présentent un trouble pour l'ordre et la sécurité publique, oui, mais vous dire combien, je ne saurais vous dire. Mais en tout état de cause, on sait que les mesures de perquisition administrative, en tout cas, ont aussi permis de freiner, ou peut-être de freiner certains individus dans leur projet éventuel d'attentat.
On va en venir alors à des points précis de ce projet de loi, d'abord aux premières mesures qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale en début de semaine, et vous l'évoquiez, hein, le nouveau régime administratif d'assignation à résidence. Qu'est-ce que dit cette mesure ?
Cette mesure, en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'un individu aujourd'hui qui présente un danger pour l'ordre et la sécurité publique peut faire l'objet donc d'une surveillance individuelle, ça veut dire peut-être assigné chez lui, soit effectivement 12 heures par jour ou éventuellement pointé dans un commissariat au moins une fois par jour. Ou alors, lorsque l'individu est d'accord, le placer sous bracelet électronique. À côté de ça, c'est qu'on a un vrai point de difficulté, c'est qu'on prend effectivement comme zone géographique la commune, sauf que ça peut créer une discrimination. Parce que si vous prenez Paris, Paris n'a pas la même superficie qu'une petite ville de province.
Alors c'est ça, on a élargi avant, les gens étaient obligés de rester chez eux. Ouais. Maintenant, ils sont obligés de rester dans leur ville. Effectivement, entre une petite ville et une grande ville, c'est plus la même liberté.
Ce n'est plus la même liberté, donc on a effectivement assoupli d'une certaine manière cette mesure, parce que c'est presque un assouplissement, de sorte à permettre aussi à ces assignés à résidence d'avoir un peu une vie sociale, entre guillemets, de pouvoir aller travailler, de pouvoir concilier un peu, j'ai envie de dire, vie privée, vie professionnelle. Mais dans le même temps, c'est quelque chose qui reste un peu flou que le Conseil d'État aura à dire son mot le moment venu sur le sujet.
Autre mesure adoptée, celle-ci hier, le nouveau mode de perquisition. On parle maintenant de visite domiciliaire.
Oui, c'est juste un reloucage, mais globalement c'est la même chose, avec une modification ou en tout cas l'arrivée du JLD, qui est l'autorité judiciaire, qui est le juge des libertés de la détention, qui va donner son avis et qui va contrôler la mesure de perquisition administrative. Cela étant dit, c'est le JLD près de la Cour d'appel de Paris. C'est-à-dire que si vous effectuez une perquisition, si les policiers souhaitent, le préfet souhaite effectuer une perquisition administrative à Marseille, il devra demander l'avis du JLD qui est à Paris et donc informer également le procureur de la République. Simplement, on peut considérer que le JLD qui est à Paris ne sait pas forcément ce qui se passe à Marseille. Donc on peut avoir un point de discussion là-dessus également.
Alors là, pour bien comprendre, est-ce que ce sont deux mesures qui existaient déjà dans l'état d'urgence ? Ou est-ce qu'ils existaient même avant 2015 ?
Alors, ils existaient avant 2015 et existeront après demain, puisque aujourd'hui le juge judiciaire dispose d'un certain nombre de pouvoirs. Si on parle des assignations à résidence, des surveillances individuelles, le juge judiciaire a parfaitement la possibilité d'assigner un individu, soit de le mettre en détention provisoire parce qu'il présente un trouble à l'ordre et à la sécurité publique, ou éventuellement de l'assigner à résidence via un bracelet électronique. C'est dans les prérogatives du juge judiciaire. Les perquisitions dans le code de procédure pénale, le juge judiciaire a parfaitement la possibilité, au travers de l'article 706-60 et suivant du code de procédure pénale, d'aller chez l'individu de jour comme de nuit.
Pour faire simple, qu'est-ce que ça apporte, cette nouvelle loi, par rapport à l'état d'urgence, par rapport à ce qu'on connaissait avant ? Est-ce que c'est plus dur, moins dur ?
Non, c'est certainement moins dur et je pense que il y a une certaine conciliation ou en tout cas un équilibre que le président de la République essaie de trouver et je pense qu'il faut se réjouir de l'arrivée du juge judiciaire dans ce dispositif. Néanmoins, on peut toujours s'interroger finalement sur est-ce que cette loi va définitivement régler le problème du terrorisme dans notre pays. Je rappelle que y compris après l'instauration de l'état d'urgence, nous avons eu des attentats. Est-ce que, effectivement, ces dispositions vont aider l'autorité administrative à procéder à des vérifications et à éviter des attentats ? Peut-être, peut-être, mais j'ai envie de vous dire que c'est cette loi ne réglera pas le problème du terrorisme dans notre pays.
Écoutez,
c'est
d'ailleurs
illusoire.
À propos donc de ces deux mesures, la réaction de Malik Salemkour, il est le président de la Ligue des droits de l'homme.
Cette logique du soupçon qui est mise en place, c'est justement le fait de ne pas s'appuyer sur des preuves, sur des faits. Mais on parle ici de personnes dont le comportement serait susceptible de. Donc on est bien là, non pas sur l'état de droit qui fonde la preuve, mais sur le soupçon généralisé.
Le soupçon érigé en système, Driss Saïd Youssef. Est-ce que c'est toute la complexité d'une loi antiterroriste, tout faire pour éviter que le drame n'arrive, parvenir presque à l'anticiper et du coup à travailler sur le soupçon, comme le disait le président de la Ligue des droits de l'homme?
Oui, c'est bien ce qui fonde soit une assignation à résidence par contre, ou une visite domiciliaire, c'est évidemment sur la base de ce qu'on appelle une note blanche qui va conduire l'autorité administrative à procéder à des vérifications. Mais c'est une vérification, c'est pas une mesure de sanction. À côté de ça, il faut que l'administration puisse affiner ses méthodes de sorte à ce que il y ait de moins de victimes possibles, j'ai envie de dire. Mais dans le même temps, les services de police ont quand même besoin de procéder à des vérifications. C'est bien quand le juge judiciaire est au centre du dispositif. Pourquoi ? Parce que pour la Constitution, seul le juge judiciaire, au travers de l'article 66 de la Constitution, qui est le gardien de la liberté individuelle, peut porter une atteinte à la liberté individuelle. C'est pour ça qu'on souhaite que le juge judiciaire soit au centre du dispositif.
Les opposants à cette loi rappellent que depuis l'état d'urgence, 4300 perquisitions ont été réalisées, mais que seulement 0,5% ont donné lieu à l'ouverture d'une enquête. Comment expliquer ces chiffres ?
Il faut l'expliquer tout simplement parce que les préfectures, les préfets ont engagé dans le prolongement des attentats du mois de novembre une vaste série de perquisitions administratives, c'est vrai, il faut le dénoncer. Dans le même temps, il y a eu des procédures de droit commun qui ont été diligentées à la suite de ces perquisitions administratives. Mmh. Ça, c'est effectivement ce qu'on peut dénoncer. Et il faut dénoncer, d'une certaine manière aussi, ces perquisitions administratives à la fois qui n'ont rien donné, mais qui ont traumatisé un certain nombre d'individus. Mmh. Je voudrais simplement vous dire pourquoi on a mis le juge judiciaire au centre du dispositif des perquisitions administratives. Tout simplement parce que vous avez une censure du Conseil constitutionnel à la suite de ce qu'on appelle saisies des données électroniques. Quand on va chez un individu, qu'on soupçonne d'une proximité trop dangereuse avec une mouvance djihadiste, on va saisir son ordinateur. Mais chez l'individu chez qui on va, il y a probablement son épouse et ses enfants. Or, son épouse et ses enfants ne sont suspectés de rien. Et d'exploiter les données privées à caractère privé de l'épouse et des enfants, c'est une atteinte à la vie privée que le Conseil constitutionnel a censurée. Voilà pourquoi on veut mettre le juge judiciaire au centre du dispositif. À partir du moment où le juge est garant de la liberté et qu'il est dans le dispositif, ça, quand je dis ça a un peu de sens, ça peut se justifier, ça peut se comprendre.
Ça veut dire que pour vous, en tout cas, cette nouvelle loi sera moins dure pour les familles, il y aura moins de dérives, comme vous dites, et finalement de victimes collatérales de ces perquisitions, de ces interventions de forces de l'ordre.
Moi, ce n'est pas suffisant. Il faudrait que le JLD, pour qu'on ait effectivement moins de dérives, il faudrait que le JLD soit le JLD du ressort du tribunal compétent. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si vous voulez faire une perquisition, à une visite ou saisie à Marseille, il faut que ce soit le JLD à Marseille qui soit saisi.
Le juge des libertés.
Le juge des libertés de la détention à Marseille, près du parquet à Marseille qui soit saisi, plutôt que le parquet parisien. Ça aurait beaucoup plus de sens. Et là, effectivement, on peut considérer qu'il y a un juge judiciaire qui est au centre du dispositif et globalement ça tient la route.
Alors vous l'avez dit, hein, le but évidemment donc c'est éviter tout acte de terrorisme. On se souvient pourtant de l'annulation par exemple de la grande marche en marge de la COP21 à Paris fin novembre 2015. François Hollande avait reconnu dans un entretien à des journalistes avoir utilisé l'état d'urgence pour cela. Il avait dit c'est vrai, l'état d'urgence a servi à sécuriser la COP21. Est-ce que le texte actuel qui est en train d'être voté à l'Assemblée nationale va pouvoir éviter ce genre de dérive ?
Non. Non.
La réponse est claire.
Non, parce que c'est le préfet qui prend une décision de perquisition administrative ou de surveillance individuelle. Par conséquent, il va lui-même ajuster son curseur. Ce qu'il faut dire, c'est que pourquoi on a aussi une contestation permettée ? Il y a un autre sujet qui est celui de la place du juge administratif dans ce dispositif. Je rappelle que lors de la COP21, le Conseil d'État n'avait absolument rien à redire de ces assignations à résidence dans le cadre de la COP21. Mmh. Et que ça a été le Conseil constitutionnel qui s'est fendu d'un communiqué, enfin d'une décision, qui a dit que non, ça ne pouvait pas se faire comme ça. Donc on peut toujours se poser la question finalement de de l'autorité administrative, en l'occurrence le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'État, dans leur capacité à un moment donné à juger si oui ou non ces mesures sont bonnes. Mmh. Il faut toujours qu'il y ait un contrôle. Le juge judiciaire, c'est a priori, et le juge administratif, c'est a posteriori. Mmh. C'est-à-dire que c'est une fois que la mesure est actée, est faite, que ensuite celui qui est victime ou celui qui a été saisi ou assigné à résidence peut saisir le juge administratif.
Je vous propose qu'on passe à une autre mesure phare, le renforcement des contrôles d'identité. Ils pourront être faits aux abords des gares internationales dans un rayon de 20 km autour des aéroports et des ports et dans des lieux dont la liste doit être établie en fonction de leur vulnérabilité et de leur fréquentation. Voilà ce qu'en dit Jean-Claude Mas, il est le secrétaire général de la CIMAD, une association qui défend le droit des étrangers.
Nous craignons un risque grave et réel d'instaurer une généralisation d'un contrôle au faciès dans ces zones élargies de contrôle d'identité. 70-75% de la population française serait concernée par des contrôles d'identité qui pourront se faire indépendamment du comportement des personnes. Autrement dit, à partir du moment où vous êtes dans la zone contrôlée, vous pouvez être arrêté par les policiers pour un contrôle d'identité et on craint que ces contrôles soient orientés vers des personnes qui seraient considérées par les policiers comme des personnes d'apparence étrangère.
Les contrôles au faciès sont depuis longtemps décriés. En France, il avait même été question à un moment d'un récépissé. Est-ce que cette mesure pourrait encore aggraver le problème et encourager ce genre de pratique ?
Oui, la réponse est évidemment oui. Pourquoi le représentant de la CIMAD dit ça ? Parce que tout simplement, comme vous avez eu un certain nombre déjà de dérives avec l'état d'urgence, il n'est pas à exclure que finalement, cette mesure soit employée pour des raisons autres que des raisons liées au terrorisme. Mmh. Et je rappelle simplement que nous avons un certain nombre d'individus qui commettent des terroristes, qui commettent des attentats absolument atroces dans notre pays, qui sont nés sur le territoire de la République. Mais c'est vrai que cette disposition, elle est critiquable.
Comment on peut comprendre même l'utilité, l'efficacité d'un contrôle d'identité ? Qu'est-ce que l'on cherche dans ces cas-là ?
Ce qu'on cherche effectivement quand on procède à un contrôle d'identité, c'est si l'individu n'est pas répertorié dans une base de données. Donc on va passer sa carte d'identité, son identité dans un fichier pour voir si
ça veut dire qu'il y a une recherche précise dans ces cas-là.
Bien sûr.
Driss Saïd Youssef, il y a une autre mesure, ce sera peut-être la dernière qu'on va pouvoir aborder là dans cette émission, mais elle est sensible, c'est les préfets qui vont pouvoir ordonner la fermeture des lieux de culte, c'est évidemment l'islam extrémiste qui est visé. Qu'est-ce que l'on peut penser de cela ? Est-ce que ça existait déjà avant l'état d'urgence ou alors est-ce que c'est une mesure qui existait, qui est apparue avec l'état d'urgence ?
Oui, c'est des mesures qui existaient avant même la mise en place de l'état d'urgence, c'est-à-dire que aujourd'hui on a parfaitement la possibilité de réprimer par l'article 421-2-5 du code pénal des propos qui seraient tenus en groupe ou dans une mosquée, des propos haineux contre les valeurs de la République et qui incitent effectivement à la haine, voilà. Et donc on a également une autre disposition qui permet d'éloigner les étrangers, c'est l'article 431-3 du code pénal. Donc ce sont des dispositions qui existent déjà et le préfet, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, pouvait déjà, avant même de l'instauration de cette disposition, fermer un lieu de culte. C'est déjà arrivé dans le passé.
Rien de neuf.
Absolument rien de neuf. Et j'ai envie de dire que sur le plan politique, ça pose même une difficulté. C'est-à-dire que lorsque le préfet ferme... En fait, le problème, c'est pas la mosquée. Le problème, c'est l'imam.
Oui.
Donc lorsque l'imam est un étranger qui prêche... d'ailleurs, c'est déjà arrivé, ça arrive encore. Des prêches contre les valeurs de la République qui incitent à la haine, il n'a pas vocation à rester une minute de plus sur le territoire de la République et qui doit faire l'objet d'un arrêté d'expulsion. Lorsqu'il est français, il doit être mis en examen, placé en détention provisoire et on doit interdire à cet individu d'approcher de mosquée.
Donc, la fermeture du lieu de culte, pour vous, n'a aucun intérêt, n'a aucun sens. Il vaut mieux s'en prendre effectivement à leur responsable.
Ben oui, elle est même contre-productive, puisqu'on va revenir à une situation antérieure qui est l'islam des caves. Et donc, on va punir tout un tas de fidèles qui sont des gens qui sont pour la plupart d'entre eux, pour une grande majorité d'entre eux, qui vivent leur religion en paix. Une religion qui est parfaitement soluble dans les valeurs de la République.
Vous posiez tout à l'heure, pour conclure, de savoir. Finalement, vous dites, le plus important, c'est de savoir si ça va pouvoir vraiment éviter des actes terroristes sur notre territoire. En quelques mots, cette nouvelle loi ?
Non, mais honnêtement, je ne pense pas. D'ailleurs, je vais simplement vous renvoyer à deux ouvrages récents qui sont des ouvrages intéressants. Le premier d'un responsable d'établissement à Marseille et le second d'un journaliste qui a grandi à Lunel. Sur ces deux ouvrages, on a un problème d'éducation, éducatif, et l'autre de politique de la ville. C'est là aussi qu'il faut intervenir.
Merci Driss Saïd Youssef, président de l'Institut Léonard de Vinci. Merci à Cécile Rogue, Laurence Sarniguet, Sarah Agoun, Éléonore Krenik et Fabrice Violet qui m'ont aidé à préparer cette émission. Décryptage à retrouver sur RFI.fr, Twitter et Facebook. Bonne soirée.